Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Allez, bien le bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce quatrième magazine d'Instant Sport. Après une semaine de repos dû au jour férié, nous voilà repartis avec donc deux fois plus d'actu pour autant de chroniqueurs. Mais ça ne nous fait pas peur, car au Matnet, à côté de moi, nous avons notre ami Laurent Julien. Bonjour.
Bonjour à tous.
Toujours fidèle au poste comme il l'est à l'OM, Patrick Bianconi. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
D'ailleurs, Patrick, on dira deux mots de ce formidable classico qui a vu une nouvelle défaite de Marseille après celle contre Montpellier.
Oui, mais tu dis formidable sur un ton ironique, mais on peut dire quand même que ça a été formidable parce qu'il y a eu, un vrai match et un vrai beau match, à mon avis.
On reviendra dessus en fin d'émission. Il est comme notre invité du jour, son équipe enchaîne les victoires. Luc Respon, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et voilà, justement, actualité oblige, notre invité donc aujourd'hui vient nous parler de la Coupe de France de football, du 7e tour qui a vu l'AFL se qualifier. Ici présent, l'entraîneur de l'AFL, Stéphane Saura, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, on va mélanger les résultats des deux derniers week-ends. On commence en basket avec les garçons honneur régional. Alors, les garçons qui ont failli gagner il y a deux semaines contre Carcassonne, 49 à 46. Un espoir de courte durée, vu que l'équipe est retombée dans ses travers et perd à Lunel 68 à 45. Bon, pas grand-chose à dire, on va attendre les play-downs, on le sait. Luc, peut-être un mot sur la première victoire qui a failli arriver il y a deux semaines contre Carcassonne, ça s'est joué à de peu?
Ça s'est joué de très très peu, parce qu'ils sont même passés devant dans les dernières secondes, et puis ils ont la possession, le dernier ballon pour égaliser et essayer d'arracher la prolongation. Et puis c'est assez loupé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont passés très très près face au leader qui leur avait mis 60 points la semaine d'avant. Bon, après, ce week-end, ça a été un peu plus compliqué sur un match à l'extérieur à Lunel. Bon, après, c'est des petites choses à régler, c'est des pertes de balles, c'est des shoots qui ne rentrent pas. Voilà, c'est embêtant, mais je pense que malgré tout il y a quand même du progrès pour les gars.
Ok, les féminines étaient en repos il y a deux semaines. Alors c'est vrai qu'on s'en rappelle, il y a trois semaines elles étaient arrivées un peu éméchées sur le terrain suite à la soirée d'Halloween, donc il fallait qu'elles se reposent, et ça leur a fait du bien vu qu'elles ont pris leur revanche sur Alès en allant s'imposer à l'extérieur 61 à 38. Il y a trois semaines c'était contre Alès qu'elles s'étaient inclinées, Luc, il me semble.
C'était contre Montpellier. On avait perdu match aller contre Alès en prolongation.
Donc Luc, la question, ça fait du bien d'avoir des joueuses à jeun sur un terrain?
Ouais, alors c'est pas le fait qu'elle soit à jeun ou pas à jeun, c'est surtout le fait d'avoir un effectif au complet et avoir des filles qui jouent ensemble et qui ont envie de jouer ensemble. Et ce qui a été le cas samedi, elles ont fait un gros match, elles ont été vraiment très solidaires. C'est ce que je leur avais dit au début du match, c'est que de toute façon, on savait que c'était une équipe compliquée à jouer si elle voulait gagner, il fallait qu'elle soit une équipe. Voilà. Et c'est ce qui a été le cas.
Alors 61-38, c'est un score. Le match a été plus serré que le score le laisse paraître, ou pas? J'ai vu que ça se tenait quand même, hein, pendant au moins trois quarts temps.
Ça se tenait. Puis il y a eu un petit déclenchement, c'est qu'il y a eu deux fautes techniques pour les joueuses d'Alès, contre l'équipe d'Alès dans le match, ce qui a permis un peu de prendre les distances. Et puis un peu de les mettre la tête dans le seau, et ce qui fait que du coup sur la fin du match elles ont quand même un peu lâché prise. De toute façon, il y avait deux solutions, hein, soit après la faute technique, soit elles se rebellaient contre nous et à ce moment-là ce serait compliqué, soit on leur mettait la tête sous l'eau et on finissait le boulot. Plutôt ce qui s'est passé et au final c'est une belle victoire face à une belle équipe d'Alès.
D'accord, une belle réussite pour la capitaine Céline et à 3 points.
Ouais, qui met 3 shoots à 3 points, 23 points. Il y a 23 points d'Aurélie Tricouard aussi. Voilà, après, ça va se jouer samedi prochain, puisqu'on va chez le leader Lunel, qu'on a battu à l'aller. Donc voilà, en cas de victoire, ça nous permet de continuer à espérer pour les playoffs. En cas de défaite, ça va être très compliqué.
D'accord. Pour terminer, au classement, elles en sont où, les filles ?
Elles sont troisième.
Troisième.
Troisième à égalité de points avec, avec Montpellier, mais qui est devant au goal average. Enfin, au goal average particulier.
D'accord. On passe au volleyball. Mende a gagné 3-7 à 2 face à Grenoble il y a deux semaines et a perdu ce week-end à domicile 3-7 à 0 face aux Herbiers. Donc, avec 11 points, les garçons du MVL sont quatrième. Alors, à 1 point du septième et à 2 du troisième. Donc, c'est un score extrêmement serré. Les Herbiers, en plus, qui se présentaient selon leur meilleur attaquant, Ngoé, et lors de la dernière confrontation, le match avait été serré. Là, patatras, une défaite, c'est une défaite étrange, Patrick.
Oui, bon, tu as parlé du match de Grenoble de la semaine précédente. Donc, moi, j'ai vu ce match-là, 3-2, un spectacle vraiment de très haut niveau, une ambiance de folie, un match vraiment extraordinaire. Un attaquant à Grenoble, comme on en voit pas tous les week-ends, avec ses traits de l'Oxe, une carrière de déménageur, plus de 25 points dans le match. Bon, un joueur hallucinant, vraiment, vraiment hallucinant. Et donc Mende a réussi à arracher cette victoire 16-14 au cinquième set grâce à des services vraiment surpuissants d'un des Tahitiens de Mende, Donovan Teavae, qui joue aussi au centre et qui a fait un match monumental avec son copain Olivier Fabre qui joue aussi central. Et donc bon voilà, 3-2 contre une équipe de Grenoble. Bon, Grenoble, il faut savoir qu'il y a 25-30 ans, c'était le meilleur club en France. Ils étaient champions de France, ils fournissaient quasiment la moitié de l'équipe de France. Bon, là, ils essayent de remonter, donc c'était un bon résultat avec ce 3-2, même si tu marques que 2 points, on l'a expliqué plusieurs fois comment
marquer les points.
Voilà. Ouais. Donc c'était une bonne répétition pour ce match contre les Herbiers. Alors après, Stéphane, qui est à côté, le sait très bien, c'est toujours compliqué de gagner deux fois à domicile. On le dit en football, mais bon, c'est aussi vrai au volley. Et donc là, contre les Herbiers, bon là, par contre, j'ai pas vu le match, mais d'après ce qu'on a dit, il y a eu un premier set hyper serré, avec Mende s'incline 26-24, un set qui aurait pu basculer du côté des Mendois. Et puis après, ben le trou noir, mais vraiment un énorme trou noir, et donc une défaite qui fait mal parce que bon, tu marques 0 point. Alors tu es toujours quatrième, mais
il y a trois équipes.
Voilà, c'est hyper serré. Et dans 15 jours, tu vas à Ilac dans la banlieue bordelaise, qui est juste devant toi, 2 points devant toi. Il y a deux équipes qui font le trou, Fréjus et les Herbiers. Il y a une équipe éliminée qui est Brive. Puis après, ben ça va être là.
Après, tout est,
ça va
tout
être chaud. Voilà, il reste 6 matchs, tout est possible. Mais bon, c'est vrai que ça fait mal quand même.
Donc si tu finis dans la deuxième partie de classement, qu'est-ce qui se passe après?
Tu joues les quatre derniers. Et tu gardes les points que tu as marqués contre les trois autres équipes qui font les pédames avec toi.
Il faut être prix Nobel de mathématiques pour comprendre après comment ça se passe les deuxièmes phases.
Ouais, c'est plus compliqué qu'au football, c'est vrai.
Après, je crois que les Herbiers, c'est quand même une grosse équipe à la base. Hein.
Ils étaient juste devant au classement, là.
Ouais, mais c'est le début. C'est une équipe qui que Mende avait joué d'ailleurs en finale de National 3 il y a 2 ans.
Bon, les Herbiers, tu as raison de le souligner, c'est une équipe qui tourne autour de la montée depuis plusieurs saisons. Ils veulent vraiment intégrer le monde professionnel, donc monter en Ligue B. Bon, les Herbiers, c'est en Vendée, c'est une ville toute petite, hein, c'est pas bon, je pense que c'est pas plus grand que Mende, mais il y a des pépinières d'entreprise, c'est un peu la Silicon Valley de la Bretagne, et donc voilà, donc il y a du soutien financier, il y a du soutien bon pour avoir des jobs, et donc même au football Steph, je sais pas si tu les suis, mais voilà, je crois qu'ils sont en CFA et ils veulent aussi intégrer le national et pourquoi pas la Ligue 2, le monde professionnel aussi. Enfin, c'est voilà, au niveau sportif, c'est hallucinant cette ville. Ouais.
Faut qu'ils trouvent un peu un stade aussi, hein, parce qu'on a vu avec l'USNAC que quand on est une petite club pour monter en Ligue 2, c'est compliqué.
Ouais.
On reviendra pas sur ce scandale, non. Mais
ouais, c'est vrai. On pense pas moins. Il y a une interview de Barthez aujourd'hui dans l'équipe. Je vous la conseille parce que il aligne un peu quelques grands pointes et quelques grands commentateurs. Mais je pense qu'à juste titre.
D'accord. Stéphane, tu suis un peu les autres sports lausériens, le volley, le hand, le basket?
Bien sûr, en priorité le volley, je les suis depuis plusieurs années. J'ai quelques contacts plus ou moins réguliers avec Constant. Oui, je m'intéresse à toute l'actualité sportive mendoise.
D'accord, on te conseille les féminines au basket, quand elles n'ont pas bu, elles sont très très fortes. Mais après, ça dépend des matchs. En handball maintenant, National 3, le MGC a obtenu un match nul il y a deux semaines dans le derby face à Saint-Flour, 28-28. Ce week-end, lors de la sixième journée, le MGC s'incline de justesse à Firminy, 32-30. Bon, alors, si c'est pas encore ça, le MGC est en progrès sur ses deux dernières sorties. Le club est 10e sur 12 avec 9 points, une victoire, un nul et 4 défaites. Le 8e n'a qu'un point de plus. Bon, c'était la 6e journée. Tu t'es rendu au match contre Firminy
Non, pas du tout.
Contre Saint-Flour.
Saint-Flour, là, donc pour le derby où le MGC avait chuté contre cette même équipe en Coupe de France pas longtemps avant. Là, ils ont fait jeu égal à se doubler tout le match pour finir avec quelques buts d'avance avant la fin du match. Ils se sont fait rattraper et avec un pénalty à 8 secondes de la fin pour Mande. Et le tireur a bien tiré, mais un goal adverse qui l'arrête. C'est dommage parce que Mande avait fourni...
S'il arrête, c'est pas bien tiré. Hein. Non, un pénalty bien tiré, il est marqué. Hein. Demande à Stéphane, te dira.
Mais donc, Mande qui a un bel effectif, mais la victoire ne vient pas encore, ça va venir, une équipe jeune, donc c'est normal que...
C'est pas une équipe si jeune que ça, hein. Et ça fait longtemps qu'ils sont jeunes, hein. Moi j'en avais discuté avec le coach, Vincent,
de Vulgar. C'est que Laurent est très vieux, donc
ils sont jeunes, mais c'est une équipe, une grande partie de l'équipe avait déjà joué en National 3 lors de la précédente montée, alors c'est vrai qu'ils sont pas très vieux, mais c'est quand même une équipe qui a dans son ossature en tout cas de l'expérience.
Donc ils ont quand même l'effectif pour se maintenir, donc maintenant il va falloir qu'ils aillent gratter des points à droite à gauche, ce qui est normal. Donc je voudrais revenir aussi sur le handball féminin.
Très bien ça,
avec les coéquipières de Marielle Meras qui ont battu ce week-end Lunel 21-20, donc on peut dire même qu'elles les ont éclatées de un point. Et ce week-end, donc elles doivent confirmer, elles vont jouer à Bouillargues.
C'est leur première victoire, je crois, de la saison aux féminines du MGC.
Oui, donc c'est encourageant.
Ouais, elles sont quel championnat, les féminines ?
Région.
En région.
Ouais. Donc un petit mot aussi sur les moins de 13 filles que j'ai suivies, avec deux victoires contre le Vigan et Vergès. Bravo les filles.
Voilà, très bien, les féminines en Lozère qui marchent bien.
Hein. Ouais, ça tourne. Il y a les féminines du volley aussi. Qui ont une belle équipe. Je me souviens plus ce qu'elles ont fait ce week-end.
Je crois qu'elles ont gagné ou qu'elles ont perdu de très peu.
Je crois qu'elles ont gagné, mais...
Ouais. Non, il y a un bon terreau de sport féminin. On avait parlé la dernière fois en Lozère. Ça se développe, c'est très bien.
Oui, on essaiera d'avoir des féminines un peu. Oui, Laurent.
Pour précision, elles ont fait 3 victoires en 6 matchs, les féminines.
D'accord.
Voilà.
Alors, n'importe quoi, Luc Crespon. Ah oui, ils ont gagné leur premier match.
C'est l'investigation.
C'est ça. Bravo. Absolument. J'ai investigué ce matin, c'est pour ça.
Mais bravo, alors, d'autant plus 3 victoires. On va les suivre. On va essayer on lance un appel sur notre antenne s'il y a une féminine du hand qui veut venir lundi prochain dans l'émission. Voir une ou deux, hein, il n'y a pas de souci, on les reçoit. Vous passez par notre secrétaire Laurent Julien et vous venez dans l'émission.
Avec un CV, lettre de motivation.
CV, lettre de motivation, ouais.
Et photos,
surtout.
Ouais. Faire un casting.
Alors, rugby, le RCML n'a pas joué il y a deux semaines, reprise du championnat au honneur avec la 5e journée, une défaite à Pratt-Pic-Saint-Loup, 38-3. Alors, suivant les échos que j'en ai eu de la part des joueurs du RCML, rien à dire sur cette défaite. Au final, un bilan équilibré, 2 victoires, 2 défaites. Patrick ?
Oui, bon, on avait reçu 2 joueurs à l'émission précédente. Bon, c'est vrai qu'il y avait un super début de saison avec des matchs à domicile. Bon, là, du coup, c'est plus compliqué. Bon, on a compris que aussi il y avait déjà des blessures qui sont très handicapantes, en particulier le buteur. On l'a souvent dit au rugby, c'est vraiment primordial. Et donc la blessure de Tichit, c'est vrai que ça pénalise. Bon, après quand tu prends 38-3, c'est pas seulement le buteur, puisque tu as pris aussi 6 essais. Bon, à l'extérieur c'est compliqué. Le Pic Saint-Loup, c'est un club énorme, formateur.
Il y a Trenduc. Il y a son frère qui a joué d'ailleurs.
Voilà, il y a son frère qui a joué, qui a marqué un essai contre Mande. Donc voilà, on sait que c'est des déplacements compliqués. Bon, Mande rentre dans le rang, ils sont maintenant au milieu de tableau. Bon, voilà, dimanche, ils reçoivent le leader, un faux leader, parce que ils ont un match de plus, donc bon, ils sont égalité avec un autre club, mais l'autre club a un match de moins, donc c'est pour moi un faux leader. Mais bon, ça va être dur aussi dimanche. Bon, voilà, mais en tout cas, par rapport à ce qu'ils ont connu la saison dernière, bon, y a rien à dire. C'est un nouveau départ et c'est bien.
D'accord, on invite tout le monde à venir au stade dimanche. Il y a beaucoup d'équipes qui reçoivent les leaders le week-end prochain.
Ben, le handball aussi, on n'en a pas parlé, mais samedi, le hand reçoit Voiron, et Voiron, ils sont premiers aussi.
Ouais. Et le foot, ça sera pas loin de... C'est pas le leader,
c'est pas le leader, mais presque.
Mais presque.
Ouais, mais un faux leader aussi, puisqu'ils ont un match en retard par rapport à Poland.
C'est ça, ben, on va en parler.
Un match de plus par rapport à Poland.
On va en parler, parce que justement, on va commencer à parler de football. Avant cela, deux infos. La compagnie des Archers de Mende, qui a obtenu 3 médailles au championnat de France, 2 titres chez les jeunes et 1 médaille d'argent en vétéran. Donc ça, c'est important de le signaler. On parle pas souvent du tir à l'arc. Et également, athlétisme. Alors, Laurie Julien et pas Laurent Julien, attention. Termine 3e au 10 km d'Alès, donc belle performance. 10 km d'Alès, remarque, tu n'étais pas loin, toi, dans ta jeunesse, Laurent.
Il était à 10 km d'Alès.
Voilà, 10 km d'Alès, c'est ce que j'avais dit. Ouais,
il le faisait en bus.
Allez, en foot.
Laurie Julien, je crois que c'était d'ailleurs là, qui fait une très belle saison. Parce que
elle est à l'éveil Mandois, je crois.
Elle est à l'éveil Mandois, elle a couru pour Athlé Lozère. Et je crois que c'est elle qui a été la première Lozérienne du Marvejols-Mende, si je ne m'abuse.
C'est exact.
Ouais. Excellente info,
bravo. Alors football, on va aller en Haute-Lozère. L'ENL s'impose avec la manière il y a 2 semaines face à Moulins, 5-0. Cette semaine, Coupe du Cantal, 3e tour, même résultat face au Sporting Châtaigneraie, 5-0. Pour l'instant, tout sourit à l'ENL, Patrick, en ce moment.
Oui, c'est vrai. Bon, l'année dernière, saison compliquée avec une descente en DHR. Bon, cette année, ils sont seconds, ils sont à la lutte avec Arpajon.
Qui reçoivent
voilà, le week-end. Voilà, donc match au sommet. Bon, voilà, l'ENL repart sur une bonne dynamique. Bon, après, tu parles d'une victoire 5-0 contre Moulins. Bon, on est là, c'est un peu à la radio, on peut tout se permettre par rapport à ce qu'on fait à la presse écrite. Mais bon, Moulins, c'est l'équipe 3. Bon, je sais pas si on peut vraiment parler vraiment d'une, bon, une troisième équipe quand je compte une équipe 3. Bon, voilà, il faut aussi un peu relativiser. Bon, je vais mettre Stéphane dans l'embarras à côté, mais
c'est Laurent que tu mets dans l'embarras. Lui, la star de l'équipe 3 de l'FL.
Je pense qu'il aimerait jouer contre des équipes 3 dans sa poule du Languedoc-Roussillon. Bon, malheureusement, il a que des équipes 2. et de grosses équipes 1, mais bon, voilà, il peut nous en dire un petit mot, parce que c'est vrai que, bon, en parlant sérieusement, bon, c'est vrai qu'il y a toujours ce débat de dire c'est plus difficile dans le Languedoc-Roussillon qu'en Auvergne. Alors bon, ça va faire rebondir nos auditeurs du Nord Lozère, mais bon, voilà, ça peut faire le thème d'une émission. Ouais. On peut en parler. Bon, Stéphane, si tu veux en dire un mot, c'est peut-être compliqué, mais bon, voilà. Quel est ton avis? Tu connais bien le football de Lozérien, y compris en Auvergne et Languedoc-Roussillon, bien évidemment. Le
téléphone de Laurent va chauffer, je crois.
Ouais. Non, j'avais juste une petite chose à préciser sur les équipes 3. On a une excellente équipe 3 à l'avenir foot Lozère. C'était surtout ce qui me faisait réagir. Et Laurent, au bout de la table, allait réagir autant que moi. Fabien Bernard, s'il nous écoute, il serait pas content. Donc les équipes 3 sont vraiment de qualité.
C'est vrai d'ailleurs pour occuper quand même un poste, bon, un petit poste, mais un poste quand même à la DDFL. C'est vrai que l'équipe 3 de l'AFL revient largement sur la table, et bon, vous êtes en sursis chaque année parce que presque on va vous mettre en championnat.
Donc, tu vois, il peut y avoir de la qualité, quelquefois beaucoup de qualité dans les équipes 3.
C'est vrai.
Non, mais au-delà de cette victoire 5-0, enfin de ces deux victoires 5-0. De l'ENL, c'est quand même un très très bon début de saison avec une équipe qui a changé de coach à l'intersaison, qui a vécu une saison de galère l'année dernière. C'est pas facile de rebondir après une descente, parce qu'en plus c'est un club de DH qui vient de DH, donc ils sont attendus un peu partout. Et je trouve qu'ils font quand même, du bon boulot pour l'instant.
Stéphane, le niveau du championnat d'Auvergne par rapport à du Languedoc, on discutait en rigolant, mais il y a une différence quand même d'écart. On sait qu'en handball, par exemple, il vaut mieux être dans la poule Auvergne que celle du Languedoc Roussillon au football.
Ou du Sud-Est, ouais.
Ou du Sud-Est. Au football, c'est pareil ou pas?
A priori, c'est ce qui se dit. Personnellement, j'ai pas suffisamment fréquenté ce championnat pour porter un jugement avisé. Il m'arrive de temps en temps d'aller voir le NL notamment, quelquefois Saint-Flour. Il semblerait qu'il y ait un niveau légèrement différent, bien que certainement le niveau d'ensemble, mais si on prend les équipes de tête, si je raisonne par rapport à la division d'honneur, les équipes de tête sont quand même de qualité. Donc voilà, oui, il doit certainement exister une différence, mais faut quand même savoir qu'en Languedoc-Roussillon, on fait certainement partie des meilleures régions en termes de qualité de football. Donc voilà, après c'est toujours, il me semble compliqué de comparer d'une région à l'autre. Ouais. Voilà,
ça serait important que l'ONL remonte en division supérieure pour le football lausérien.
Oui, c'est important déjà pour eux, c'est important pour la Lozère, mais je crois qu'avant tout, ce qui est très important pour la Lozère, c'est qu'il y a un vrai club porte-drapeau, un club qui arrive à vraiment représenter la Lozère. Moi, je suis pas pour des guerres de clochers entre les clubs lozériens. Il faut qu'il y ait vraiment un club Lozère qui arrive et qu'on aide surtout pour représenter le football Lozère en dehors du département et même en dehors de la région.
Ce qui se passe avec l'athlétisme, on en parlait tout à l'heure avec Laurie Julien, mais c'est vrai que les meilleurs athlètes lausériens, quand ils vont faire des championnats hors du département, sont tous sous la bannière d'athlètes Lozère. Et non, pas sous leur club respectif.
C'est vrai que le rêve absolu, c'est de faire un club Lozère. Bon, moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce département. Bon, ça fait quasiment 15 ans que j'en entends parler. Bon, c'est vrai que ça serait... C'est un rêve absolu. C'est vrai que ça pourrait donner des perspectives immenses. Alors où on le caserait ce club Lozère.
Et c'est ça le problème.
Forcément à la préfecture. Bon, donc Amande, en plus à la position centrale de Mande, au milieu du département. Donc c'est vrai que c'est un fantasme. Bon, à mon avis, ça se fera jamais. Ou alors peut-être quand on sera retraité. Mais bon, voilà. Après, 29 clubs. En Lozère, il faut le signaler, 29 clubs de foot. Bon, voilà, plus de 2500 licenciés sur tout le département. Donc ça veut dire quelque chose. Hein. On a peu comparé avec les autres sports. C'est sans commune mesure. Après, c'est normal que chacun se batte pour son village, pour son clocher. Bon, après, des fois, c'est exacerbé. C'est là où ça va parfois un peu trop loin. Mais comme on en a parlé le jour de la conférence de presse qui précédait le match contre Agde, je trouve quand même que depuis 2-3 ans, en particulier depuis l'épopée de 2013 qui a mené la FL jusqu'en 16e, je pense quand même il y a plus d'adhésion. Il y a vraiment, on entend moins la FL, bon, qui était perçue avant comme celui qui voulait tout bouffer, tout écraser. Bon, maintenant il y a plus de respect, il y a beaucoup de sympathie, il y a des gens qui viennent de partout, de toute la Lozère pour voir les matchs, et donc ça, je trouve que c'est bien, c'est un premier pas. Oui. Donc peut-être qu'un jour on arrivera à ce club Lozère, c'est vrai qu'il donnerait des perspectives, ça serait, à mon avis, ça serait super, on pourrait peut-être même viser le national, à mon avis.
Oui. Et pour avoir commenté les matchs de Coupe de France avec Laurent, on recevait énormément de messages de joueurs de l'ENL qui suivaient cette équipe de l'AFL et qui l'encourageaient. On va rester à parler de coupe avec la Coupe Gare Lozère. Marvejols s'impose avec Vive 4-0 et se qualifie. L'équipe 2 de l'AFL gagne après prolongation 4-2 à Vestric, donc match difficile pour la réserve de l'AFL. Alors il y a deux semaines, Marvejols s'était imposé pour la première fois à domicile en championnat face à la réserve d'Aigues-Mortes 1-0, tandis que la réserve de l'AFL il y a deux semaines s'est inclinée à Montpellier-Atlas 2-1. Alors tout d'abord Marvejols, Aigues-Mortes, Aigues-Vive, même résultat, deux victoires, pareil, on parlait de bonne dynamique, c'est le cas de Marvejols.
Bon, Marvejols vient de recruter deux joueurs. Il y a quelques semaines, deux joueurs qui évoluaient alors dans un petit club de Rhône-Alpes qui avait fait un parcours en Coupe de France assez fabuleux, ben je pense la même année que la AFL. Donc je me souviens plus, c'est un nom composé, c'est un village composé. Enfin, il y a deux noms dans
Aigues-Joie.
Non, c'est pas ça. Et bon, il y a un avant-centre donc qui est arrivé, il y a un milieu de terrain, un 6 et un avant-centre, et il paraît que l'avant-centre c'est vraiment il est vraiment très fort. Quoi.
Je crois qu'ils sont arrivés. Ils ont fait leur premier match la semaine dernière, d'ailleurs, contre un championnat.
D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le penalty contre Aigues-Mortes. Il joue à Vincent. Il paraît qu'il est vraiment bon. Il est impressionnant physiquement et très adroit devant le but. Donc, je pense que là, Marvejols avait commencé son redressement, mais bon, maintenant avec ses arrivées, bon, j'ai jamais été inquiet sur le maintien de Marvejols en PHA et je le suis encore moins. Bon, voilà, je pense qu'ils vont faire une saison en PHA tranquille, sans problème.
C'est un de tes anciens joueurs, Stéphane, en plus, qui les a repris. C'est Atita Diompi qui a repris cette année Marvejols en championnat, comme entraîneur.
Oui, comme entraîneur. Il continue son parcours d'entraîneur là-bas à Marvejols. Ouais.
Il t'appelle un peu des fois pour demander des conseils. Il a oublié.
Pas souvent, non.
Pas souvent. Et ouais, ça, il vole de ses propres ailes. Stéphane, un mot sur la réserve de l'ASL, match difficile, on aurait pu croire que ça aurait été plus facile que ça en coupe, 4 buts à 2 après prolongation, avec un but de Maël Trottoin qui fait des émissions chez nous de rap qu'on salue. Match difficile, ouais, pour se qualifier.
Match difficile, bah ça montre que la coupe et même la coupe Garloser peut réserver aussi son lot de surprises. Je crois que ce qu'il faut d'abord retenir, c'est la qualification. C'était important de passer un tour de plus dans cette coupe Garloser qu'on a remportée il y a quelques années maintenant. J'ai été un peu surpris du déroulement de ce match parce que c'est vrai qu'il y avait des joueurs qui étaient au repos, d'autres blessés, mais il y avait surtout quelques garçons qui rentraient dans ce groupe. Je pense notamment à leur capitaine Alfredo et à Ibrahima Mboup. Donc j'ai été un peu surpris, c'est vrai, du déroulement du match, mais je crois que ce qu'il faut surtout retenir, c'est la qualification et les 4 buts inscrits.
Ok, on va dire un mot également sur l'équipe 3, Laurent. Qu'a fait l'équipe 3 le jouer ce week-end?
Repos ce week-end.
Repos, après les virages de Mérues.
Il fallait récupérer parce que, quand même, la semaine précédente, il y a eu un match au sommet contre la Vaillante Monnaz, 2-2, je sais pas, 7-8 cartons, 8 des cartons, rouges. Voilà, 8 cartons, 2 rouges. Ouais. Bon, voilà, un vrai bon match entre les deux premiers.
Hein. C'est Monsieur Renvi qui a arbitré, il paraît.
Ils sont toujours premiers ex aequo, puisqu'ils étaient ex aequo avant le match, donc en faisant 2-2, ils sont toujours ex aequo, bien évidemment.
Mais ils aiment les rouges.
Et donc voilà, au Corse d'Auge, il y a eu de l'animation ce samedi soir, puisque ça jouait à 20h.
C'est sûr que les rouges et les jaunes.
Donc ce week-end, si vous voulez encourager l'équipe 3, vous pouvez vous rendre au Blémard. Super match, bon terrain, pas de soucis.
Allez, c'est noté. On va l'annoncer toute la semaine.
On va peut-être parler aussi de la Coupe de la Ligue. Je ne sais pas si tu avais prévu, Ludo, d'en parler, du match contre Lunel.
Je vais juste la Coupe de la Région. Je vais juste l'annoncer vite fait. Parce qu'on passe à l'équipe 1 de l'AFL. Donc, il y a 2 semaines, l'AFL s'est incliné contre Paulan Pézenas, qui prend la tête de la DH. Défaite 4-0 avec un match sans, ce qui arrive, des erreurs défensives. En Coupe de la Région, 32e de finale, une équipe première remaniée qui est éliminée face à Lunel, 3-2 en prolongation. Alors donc Stéphane Sora, l'entraîneur de l'AFL, a dit à ses joueurs dans les vestiaires: écoutez les gars, je passe dans l'instant sport, je peux pas venir avec une 3e défaite, il va falloir gagner à cette équipe de CFA2. Et voilà, 2 buts en première mi-temps, Brassac à la 5e, Contreras à la 30e, 2-0 score final et un 8e tour de Coupe de France avec un public présent au stade. C'est parfait, Stéphane.
Non, c'est pas parfait, ça aurait pu être mieux, tu viens de le souligner, ça aurait pu être mieux à Paulan, ça aurait pu être mieux à Lunel. Donc voilà, on sait qu'on avait un mois de novembre qui n'est d'ailleurs pas terminé, difficile. Bon, pour l'instant, on essaye d'avancer pas à pas. Il y a eu quelques événements malheureux, d'autres un peu plus heureux, mais ça fait partie de notre parcours.
Le match, on dirait que vous n'avez pas vraiment été mis en difficulté ce samedi.
On parle de celui d'Agde, là.
On parle d'Agde, oui, on parle pas de Paulan. On reviendra après sur le championnat. Là, c'est vraiment l'actu Coupe de France. Vous avez joué facile, quoi.
Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien de facile.
Vu des tribunes, c'est ça.
Il n'y a absolument rien de facile, mais je crois que, en tout cas, personnellement, au-delà de la qualification, ce qui m'a énormément fait plaisir, c'est la réaction de ce groupe après la gifle qu'on avait pris en effet à Paulan. Je crois que dans tout sport, quand on vit un échec comme celui-là, une déconvenue, une bonne fessée, c'est toujours difficile de se relever, de rester debout. Et je crois que ce qu'ont montré les garçons, notamment sur l'entame de match et plus globalement sur la première mi-temps, c'est qu'ils avaient du caractère, c'est qu'ils savaient où ils voulaient aller, c'est qu'ils étaient conscients de ce qui nous avait manqué à Paulan, mais également conscients de nos qualités, de nos forces. Et je crois que c'est vraiment cette entame de match-là qui m'a fait plaisir, pratiquement autant que la qualification.
Le problème, c'est qu'on va encore vous dire, vous voyez, vous avez le niveau de CFA2, pourquoi vous n'êtes pas en tête de votre division?
Ben ça y est, tu l'as dit.
Ça y est. Je l'ai dit, Patrick, alors je te pose la question à toi. Pourquoi?
Non, mais c'est vrai que Stéphane le répète souvent et... Bon, ça le fait un peu bondir. Hein. Bon, c'est vrai qu'ici à Mende, on s'enflamme vite. Pourtant, on n'est pas proche de la Méditerranée, mais ouais, c'est vrai que je retrouve un peu ce tempérament du sud. Et c'est vrai que les gens s'enflamment vite. Et il y a une énorme attente du public et aussi, il faut le reconnaître, des dirigeants. Et donc voilà, tout le monde attend cette CFA2 qui a été connue il y a quelques années. Et donc voilà, tout le monde rêve de jouer contre la réserve de Marseille, etc., etc., etc. Et bon, chaque fois, Stéphane, voilà, il tempère, alors presque c'est presque celui qui a l'empêcheur de tourner en rond, si je veux dire, c'est peut-être excessif, mais voilà, bon, chaque fois, il a encore répété la conférence de presse, bon, voilà, on nous voit grand, alors qu'on n'est peut-être pas si grand, bon, voilà, il joue son rôle, il tempère, il a raison de tenir ce discours. Mais bon, c'est vrai que ce match contre Agde, bon, moi, j'y étais pas, mais ça l'aide pas, parce que, bon, moi, il y avait notre collègue de la Lausanne Nouvelle, donc Maxime Solignac, qui était au match. Bon, le premier truc qu'il m'a dit, avec une équipe sur le terrain, et c'est Mande qui était CFA2 et c'était Agde qui était NDH. Bon, voilà, donc c'est vrai que ce genre de prestation, ça l'aide pas vis-à-vis de ce discours-là. Mais bon, voilà, il faut dire que cette qualification, bon, voilà, d'après ce que tout le monde me dit, il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu photo. Une première mi-temps archi-dominée, une deuxième mi-temps, Agde n'a rien proposé. Une défense d'Agde qui était complètement à la rue par rapport aux attaquants de l'AFL. Donc voilà, alors c'est vrai que bon, Stéphane, il tempère, il a raison, mais bon, il faut dire quand même qu'il y a une super équipe à l'AFL.
Non, je tempère pas, j'essaye de rester réaliste, voilà. Et pour essayer de compléter tes propos. C'est vrai que la première mi-temps a été vraiment de qualité. J'oublie pas quand même le fait de jeu au bout de la quatrième ou cinquième minute sur un but refusé. Qui aurait pu peut-être être accordé. Moi, je pense aussi pour Agde, oui. Je pense aussi qu'il y a faute au départ de l'action, pas au moment où il met le coup de tête, mais il y a une faute qui est perceptible sur les images. Il y a un tirage de maillot, il y a une faute sur Benjamin Almeiras avant que le ballon arrive sur la tête de l'attaquant d'Agde. Bon, ça peut être un fait de jeu qui peut être contre nous, donc il faut pas l'oublier. Ensuite, c'est vrai que la première mi-temps a été vraiment de qualité. Je crois qu'on a proposé du jeu. Les garçons étaient bien en place. Défensivement, Destin a pas d'arrêt à faire. On a été assez peu mis en danger. On peut presque mener 2-3 buts à la mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a souffert. On est un peu retombé dans nos travers en voulant proposer un jeu un peu trop direct à mon goût. On a trop été pressé de chercher nos deux attaquants. Donc voilà, ça nous montre également dans le jeu, et quand tu dis que ce score-là me donne pas raison, je pense l'inverse. On doit être capable, justement, sur ce genre de match, en menant 2-0, à avoir beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de qualité dans le jeu, et essayer de se mettre à l'abri sur la deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on n'a pas été excessivement mis en danger, mais par contre, ils ont eu le monopole du jeu en deuxième mi-temps. Et ça, on doit être capable de rectifier ça. Les garçons le savent, les garçons en ont la qualité, et ça nous montre une fois de plus les améliorations à trouver dans notre jeu. On a rencontré une équipe de qualité, Agde, attention, hein. C'est vrai que défensivement, ils avaient quelques absents, notamment dans l'axe. Le reste, c'était quasiment leur équipe type. Mais attention, c'est une équipe de qualité. Moi, j'ai pas trouvé une équipe qui faisait n'importe quoi.
Par rapport à la saison dernière, quand vous les aviez joués au tour précédent, tu les as trouvés comment ?
J'ai peu de souvenirs du match de la saison dernière. Je me souvenais d'un match quand même étriqué. On avait marqué un but en fin de match. Ils ont une très très grosse occasion qu'ils mettent pas. On avait peut-être moins de marge la saison dernière. Sur ce match-là, il semble qu'on en aurait un tout petit peu plus. Mais bon, voilà, honnêtement, on en prend 4 à Poland, je reste mesuré parce que je pense que ce score-là ne reflète pas l'écart entre les deux équipes, et on verra la suite du championnat. Mais je vais pas non plus m'emballer parce qu'on est au 8e tour, même si ça reste exceptionnel, et vraiment, je pèse mes mots, exceptionnel pour un club amateur de DH. Mais voilà, faut essayer de rester mesuré, et c'est mon boulot.
Poland qui s'est qualifié également contre une CFA ou une CFA2.
CFA2. Au pénalty à l'extérieur.
Voilà, Laurent.
Alors, deux petites choses. Je voudrais revenir sur le match ce samedi, Coupe de France, où on dit qu'on n'a pas été mis en difficulté. Mais je voulais quand même qu'on parle de Benjamin Almeiras et de Pierre Tessier, qui ont fait un match énorme derrière, et Souleymane Camara. Les duels aériens, je crois qu'ils n'en ont pas perdu un. De tout le match.
Non, là, je suis pas d'accord.
Deuxième mi-temps.
Je suis pas d'accord du tout. Et si t'entends, je pense que. Sur la première mi-temps, on a été beaucoup trop défaillants dans ce secteur de jeu.
Je parle que de la deuxième mi-temps, Stéphane.
Faut savoir qu'en première mi-temps, ils ont énormément allongé et on a été vraiment défaillants dans ce secteur de jeu où d'habitude, et notamment avec les trois que t'as cités, on a quand même du répondant. Mais là, vraiment, on a été défaillant en première mi-temps. En deuxième mi-temps, Agde a un peu plus joué, nous on était un peu plus bas, donc ça leur a permis de déployer un peu plus de jeu au sol, donc il y a eu un peu moins de duels dans le jeu aérien. Mais néanmoins, là où je te suis, c'est de retenir le gros match des trois. Ils ont tellement été bons qu'ils m'ont empêché de faire un changement sur un des trois. Donc voilà, j'ai préféré finir le match avec tous les trois.
Non, il faut quand même souligner que les 14 joueurs qui ont joué ont été bons. Mais ces trois défenseurs m'ont bien plu.
Il y a eu deux buts.
Attends, je voulais reparler au niveau du championnat. Stéphane, en début de saison, on annonçait que le club voulait jouer le plus longtemps possible la montée. Après cette défaite à Paulhan, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce qu'on joue encore le très haut de tableau, le haut de tableau? Qu'est-ce qu'il en est, quoi?
Moi, j'ai pas ce discours-là. Alors, voilà, peut-être je suis un peu le caillou dans la chaussure, comme tu as l'habitude de dire souvent. C'est une expression que tu aimes bien. Mais j'ai pas ce discours-là. Moi, j'attaque chaque match pour les gagner. Si on pose la question à chaque entraîneur ou à chaque président en début de saison, je pense qu'il y en aura une flopée qui diront on veut finir premier et monter. Mais bien évidemment, tout le monde veut finir premier et monter. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du tout. Moi, je préfère analyser mon équipe au coup par coup, la préparer pour qu'on soit bon sur ce championnat, rectifier les erreurs quand il n'y en a pas, ne pas s'affoler quand on en prend 4 comme dimanche à Paulhan, et Dieu sait que ça fait pas plaisir. Donc voilà, moi, pour moi, il n'y a rien de joué, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que ce championnat se resserre énormément. Je pense que à un moment donné, la FL y arrivera d'accéder en CFA2, y arrivera. Mais est-ce que ça sera à la fin de cette année? Est-ce que ça sera l'année prochaine ou encore celle d'après? Je n'en sais rien. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que le club avance, c'est qu'on progresse d'année en année, que ça plaise ou pas. Mais en tout cas, j'ai ce sentiment-là que depuis quelques années, on avance, on progresse. Les garçons sont extrêmement concernés par ce qu'on leur propose. Ils adhèrent énormément à ce qu'on peut faire avec eux. Donc ça, c'est des signes encourageants. Voilà. Après, oui, moi, je joue chaque match pour les gagner. Je ne joue pas pour les perdre.
Patrick.
Oui, non. Contre Agde, il suffit d'aller sur Internet pour voir les vidéos. Il y a eu deux buts extraordinaires qui ont été marqués par la FL. Bon, le premier, c'est une déviation en aile de pigeon des Somba, avec un tir de Brassac qui, en plus, qui n'est même pas dans l'axe. Il est un peu décalé. Il met une mine sous la barre. Ouais, c'est un but vraiment merveilleux. Puis le deuxième sur un corner contre Eras qui fait une demi-volée. Bon, là aussi, ouais, une volée, tout à fait, une volée.
Pour voir les vidéos, vous pouvez aller d'ailleurs sur le site de l'Avenir Foot Lozère où il y a une superbe vidéo de Coco Boyer qui va bientôt signer à Bein Sport d'ailleurs justement. Et donc vous pourrez voir les images de ce match.
Voilà, exactement. Donc bon, voilà, il y a deux buts vraiment d'excellente facture, et bon, ça prouve toute la qualité de cette équipe. Et on m'a dit au niveau des joueurs, puisqu'on parlait des individualités, il paraît qu'il y a eu un énorme match de la recrue de l'intersaison, Nabil, je crois, Nabil Zanina. Son prénom, c'est Nabil. Voilà, donc il paraît qu'au milieu de terrain, vraiment en rôle de sentinelle, il a fait un énorme match.
Gros match de la recrue, Stéphane.
Moi, je retiens un gros match des trois. C'est vrai que je pourrais dire de tout le monde, des trois défenseurs, Laurent l'a dit. Mais je crois que je peux pas passer sous silence le gros match des trois du milieu. Nabil Zanina, Flo
Fedel,
voilà, j'avais oublié, et Jérémy Brassac. Ces trois-là, autant on a souffert, notamment dans ce secteur-là, au match contre Paulhan, autant la première mi-temps des trois garçons a été vraiment de très très bonne facture. C'est ce qui nous a permis de prendre un ascendant sur cette équipe.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de place à milieu de terrain pour le prochain match, quoi.
Non, mais on va en parler, ça sera la question polémique de la fin de mission, Luc.
Peut-être qu'on oublie de dire, enfin, même si Stéphane le répète souvent, c'est que sur les matchs de Coupe de France, c'est pas la FL qui est favori. La FL reste l'outsider contre une équipe là de CFA2 et au prochain tour.
C'est pas ce que j'annonce sur mes ondes, moi. Hein. Je dis toujours la FL favori.
Ouais,
hein.
Mais
alors que, je me alors trompe que, pas. Hein. C'est quoi pour les pronostics?
Alors qu'en championnat, pour le coup, là, ils sont peut-être beaucoup plus attendus du fait de leur précédent parcours en Coupe de France et de l'actuel, et du fait qu'ils font effectivement partie des favoris pour la montée. Et je pense qu'il y a ce paramètre-là aussi à en prendre en compte dans les résultats de la FL.
On n'a pas ménagé Fadil pour ce match finalement. Stéphane, pour le match de coupe, Fadil, sur le pont.
Tu fais bien de me poser cette question, Ludo, parce que déjà, ça me permet de remercier par l'intermédiaire de ces ondes un kiné qui nous a énormément aidé toute la semaine, c'est Jean-Philippe Milot. On a l'habitude de fonctionner avec plusieurs kinés, deux ou trois en l'occurrence, mais Jean-Philippe s'est occupé toute la semaine et de Fadil et de Mika de Freitas, qui était également incertain, et je crois qu'il y a vraiment eu un travail remarquable de fait avec ces garçons. Il les a même repris et ouvert spécialement son cabinet pour eux samedi matin. Donc voilà, je crois que Fadil a pu tenir tout le match et jouer en grande partie par rapport au travail fait de kiné de Jean-Philippe Milot. Donc j'en profite pour le saluer et remercier de ses compétences.
Très bien. On va parler de. On finit avec la Coupe de France sur le tirage qui aura lieu mercredi. Ça commence ce mardi soir, il me semble. C'est en deux parties le tirage au sort.
Je pense que le mardi soir, il va y avoir
les dom-toms.
Outre-mer,
mercredi. On n'est pas, entre chroniqueurs, on n'est pas d'accord sur ce tirage. Il y en a qui espèrent des Ligue 2. Moi, j'espère une équipe plus basse pour passer un tour et choper une grosse Ligue 1. Alors, je sais, tu vas me dire, peu importe, ça serait bien quand je joue à la maison. Mais allez, une préférence quand même. Une grosse équipe pour avoir une belle affiche ou une équipe plus petite, on essaye de passer et d'avoir une méga affiche amende, Stéphane.
Une préférence donc.
Oui.
Alors jouer à domicile.
Ouais.
et puis être en 32e.
Ouais, d'accord, on est d'accord.
Le problème c'est que c'est d'aller se faire éliminer, je sais pas qui reste en lice, mais sur une CFA2 de l'Aude.
On reçoit Poland, les bas, les Nîmes, on les bat 4-0.
Oui, quelque chose comme ça, c'est frustrant.
Tu fais bien d'en parler, certains samedi déjà reparlaient de Poland, donc il y avait déjà un sentiment de revanche. Ensuite, on a des garçons 10 heures, donc ils se disaient, ben pourquoi pas 10 heures. On a Jura Sud, là, ça sera peut-être un peu compliqué de les choper. Il y a Mika de Freitas qui rêve de reprendre Aurillac. Donc voilà, il y aurait quelques tirages un peu marrants.
Stéphane, tu voudrais jouer Nîmes Olympique?
Ouais, ça me ferait plaisir, mais ouais.
C'est déjà fait.
On les a déjà joués. De bons tirages, je sais pas. Il reste des DH, on pourrait se déplacer à l'extérieur, jouer une DH. Est-ce que c'est un meilleur tirage que de recevoir une CFA2 à domicile?
Voilà, c'est compliqué,
ouais. Je crois que le meilleur tirage, c'est celui qui nous permettra de passer et d'être présent au 32e de finale.
C'est ce qu'on dit en général, le meilleur tirage, tu le vois après le match. Hein.
Et oui. Non, mais c'est vrai que d'atteindre les 32e et de prendre une Ligue 1, parce que c'est vrai que, il y a deux ans, ça s'est arrêté avec une Ligue 2. Bon voilà, c'est vrai, avoir une Ligue 1, ça serait énorme, même si est-ce que le stade sera homologué pour une Ligue 1? A priori non, mais bon, c'est pas un miracle, tout est possible.
Surtout avec les travaux en ce moment, je pense que ça va pas ranger.
C'est quand même une sacrée source de motivation à ce tour-là, de se dire qu'au prochain tour, on peut choper une Ligue 1, que ce soit à domicile ou ailleurs, mais choper une Ligue 1, je crois que la plus belle source de motivation, c'est certainement celle-ci pour les joueurs, pour le club, pour tout le monde. L'autre chose que je veux préciser, pourquoi je le répète à chaque fois, parce que je crois que dans cette épreuve, en championnat aussi, mais particulièrement dans cette épreuve, le fait de jouer à domicile représente quand même un avantage certain. On sent un soutien populaire extraordinaire. Les joueurs connaissent les installations forcément, mais de se sentir soutenu comme ça, c'est génial.
Voilà.
C'est...
Parce qu'une équipe comme Agde, vous auriez pu la jouer chez eux.
Tout à fait.
Il n'y a qu'une division d'écart. Donc, et là, ça devient beaucoup plus compliqué.
On aurait pu la jouer chez eux et je pense qu'il vaut mieux jouer à domicile. J'en profite, puisque je parle des matchs à domicile, remercier tout le travail des bénévoles et des dirigeants. Certes, pour eux, c'est pas facile de jouer à domicile parce que ça demande une préparation assez complexe. Donc j'en profite aussi pour vraiment saluer tout le travail des bénévoles.
Donc en parlant de match à domicile, ce week-end, donc c'est samedi.
Samedi 16h.
16h, réception de la Grande Motte.
Voilà.
J'espère que Patrick va pas nous porter la choucoumoune, puisqu'en début d'émission, il a dit que deux victoires à domicile consécutives,
c'est compliqué.
Ouais, mais c'est des compétitions différentes, ça compte pas.
Voilà, la Grande Motte, combien? Deuxième, troisième, quatrième au classement, et ils en sont où?
Non, la Grande Motte est premier au classement.
Premier ex aequo. Ah oui, premier ex aequo,
La Grande Motte est.
Avec un match de plus vis-à-vis de Poland.
Et premier ex aequo, et l'autre chiffre qu'il y a à retenir par rapport à la Grande Motte, c'est une équipe invaincue. Invaincue depuis le début de championnat, puisqu'ils ont réussi à arracher, je veux dire, parce que Poland aurait mérité de l'emporter. Mais a arraché un 0-0 chez eux à la Grande Motte en jouant Poland. Donc c'est ce qui maintient ces deux équipes en tête du championnat et elles restent toutes les deux invaincues.
C'est compliqué. Comment ça se passe pour toi d'un match sur l'autre pour parler aux joueurs cette semaine? Il y a eu cette qualification en Coupe de France. Il faut repartir après de suite dans le championnat sur un gros match.
Tant mieux que ce soit un gros match finalement.
Ouais. C'est particulier ou comment ça se prépare?
Habituellement, j'essaye de séparer un peu les deux compétitions, même si elles arrivent l'une après l'autre et à un moment donné tout se mélange. J'essaye dans mes causeries, dans ce qu'on se dit tout au long de la semaine, de séparer les deux compétitions, sauf cette fois-ci. J'ai vraiment souhaité m'appuyer sur la bonne gifle qu'on avait prise à Paulhan pour donner une source de motivation supplémentaire aux joueurs. Donc c'est vrai que je m'en suis servi pour préparer le match d'Agde. On va voir comment on va se préparer cette semaine. Mais je crois que c'est aussi une chance quand on est joueur de football de pouvoir enchaîner des matchs en jeu comme ça. On sort d'un 7e tour de Coupe de France. Le week-end d'après, on rejoue une équipe de tête de notre championnat. C'est génial, quoi. Je pense que les garçons s'entraînent, se préparent pour jouer des matchs comme celui qui nous attend samedi.
Les points forts, points faibles de la Grande Motte, s'il y en a, je sais pas ce que tu es allé les voir jouer.
Oui, je suis allé les voir jouer contre Paulhan. C'est une équipe avec un peu plus d'individualité que Paulhan. Peut-être un effectif, un collectif un peu moins huilé. Une équipe complète de partout avec un très bon gardien de but, j'avais trouvé. Défensivement, ça fait partie des meilleures défenses du championnat. Et je vous dis, au milieu et devant, vraiment de belles individualités. Une équipe redoutable.
Est-ce que ça serait pas le moment de lancer Laurent Julien dans le grand bain?
Je me pose la question. On a quelques soucis de blessés en ce moment qu'il faut gérer. Donc, il faut qu'ils se tiennent prêts. Ouais.
Alors, sache que j'ai toujours mon sac dans la voiture au cas où.
Il faut pas qu'il y ait trop de virages par contre.
Il se dit aussi dans les coulisses que Stéphane ne préférerait jouer à 10 que de me faire jouer. Donc, je sais pas.
Non, mais c'est surtout, je voudrais pas affaiblir. Je reviens à notre équipe 3. Je voudrais pas affaiblir l'équipe 3 parce que c'est un des piliers de l'équipe 3. Hein.
Oui, c'est vrai. Tout le monde l'a dit. Un pilier. Un bon, il fait du rugby aussi. Allez, une petite pause musicale. On revient avec l'actualité nationale, internationale, après ce passage sur l'actualité lozérienne.
Na minha vida, e de bobeira que eu não estou. estou. E você sabe como é que é. E eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Na minha vida, de volver a quem eu estou. E você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor.
Allez, Tivre Adzao, c'est où George, c'était pas CDC, mais ça en était pas loin. L'actu nationale, internationale, on va commencer avec le rugby. Victoire en rugby de l'équipe de France face à l'Australie, 29-26. Énorme, Patrick.
Ouais, ça a été chaud. À plusieurs reprises, les Australiens, quand même, avaient la balle de match. Bon, à la fin, certes, mais bien avant aussi, même en première mi-temps. Bon, après, il y a un essai français là, de cette nouvelle star, elle est liée, Teddy Thomas, que personne ne connaissait.
Alors, pas bon en défense, mais voilà. Excellent en attaque. En défense, par contre,
il marque un essai, on en reparlera.
20 ans. 20 ans.
On va rappeler que Teddy Thomas, il y a 3 ans, faisait du surf à Biarritz.
Voilà.
Il
donc,
joue dans quel club?
Il joue au Racing Métro. Il joue au Racing Métro, il joue à Biarritz l'année dernière.
Non, là, moi, il a fait beaucoup.
Bon, il marque un essai. Dans 20 ans, on en reparlera encore. Bon, ça a été décortiqué image par image dans tous les médias. 6 défenseurs éliminés. Bon, les Australiens, c'est pas les Fidji, c'est pas la Géorgie, c'est pas la Roumanie.
C'est pas l'Albanie.
Voilà, c'est pas l'Albanie, encore moins au rugby.
C'est pas le Pérou.
Mais bon, voilà. Donc, il y a eu cet éclair. Bon, il y a une équipe de France hyper vaillante. Après, ces matchs de novembre, il faut vraiment les relativiser parce que l'hémisphère nord est en plein championnat, donc ils sont en pleine condition. Et puis l'hémisphère sud, eux, par contre, ils sont en fin de saison. Donc ils arrivent, ils sont totalement émoussés. Et donc on avait écrasé l'Australie il y a 2 ans, encore pire que ce week-end. Et ça n'avait pas empêché qu'on avait fait un tournoi du Grand Chelem cataclysmal. Donc il faut se méfier, mais enfin quand même... Il y a un truc qu'il faut reconnaître à Saint-André, c'est qu'il a incorporé des nouveaux et je pense quand même qu'ils sont pas mal.
Luc. Oui, un peu moins d'accord avec Patrick sur le fait qu'il y ait de la relative qualité de ces matchs-là, parce que l'Angleterre a encore été battue par l'Afrique du Sud. Les Néo-Zélandais restent les Néo-Zélandais, ils ont difficilement battu l'Écosse. Mais je crois que les Australiens étaient vraiment venus avec des ambitions. Ils avaient battu les Gallois la semaine d'avant. Je pense qu'ils avaient vraiment des ambitions sur ce match-là. Par contre, c'est vrai que l'arrivée des nouveaux joueurs, moi notamment, j'ai bien aimé le pilier Winnie Antonio, le pilier.
On avait la même blague avec Laurent, mais on ne la dira pas.
Il a un Winnie l'ourson tatoué sur le cœur. Qui a été très bon. Scott Spedding aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Scott Spedding là, à qui on annonce sa sélection qui est en larmes.
On en a parlé dans la dernière émission.
Il y a 15 jours. Voilà.
Il y a 15 jours.
Mais moi, je trouve qu'il y a de bons joueurs qui ont été intégrés. Teddy Thomas, Maestri, qui a été Yohan Maestri, qui a été énorme. Moi, je trouve très encourageant pour la suite.
Allez, on passe.
On verra contre l'Argentine mercredi, samedi.
Samedi, on passe au tennis. Avec la Coupe Davis qui va avoir lieu, on pourra faire des pronostics. Petite polémique qui, moi personnellement, m'a scandalisé. Roger Federer qui déclare forfait en finale du Master de Londres pour se réserver pour la finale de Coupe Davis. Je trouve ça scandaleux. Patrick, je sais pas ce que tu en penses.
C'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Le Master, ça réunit les 8 meilleurs joueurs de la planète. Bon, il fait une demi-finale, il gagne 7-6, il sauve 4 balles de match contre son compatriote Wawrinka. Bon, le lendemain, il fait forfait en finale devant, je sais pas si tu as vu, mais à Londres, il y a une salle, il y avait 1000 personnes. C'est une des plus grandes salles en Europe. Bon, c'est vrai que c'est choquant. Bon, c'est le tennis. Il a jamais abandonné un cours de match dans sa carrière. Peut-être qu'il a fait ça. Il préfère ne pas jouer plutôt que d'abandonner au bout d'un set ou un set et demi. Moi, je pense qu'il aurait quand même dû commencer à jouer, quitte à abandonner après dans le deuxième set. Mais bon, là, c'est vrai que venir au micro, la salle est comble, dire je suis forfait. Bon, c'est vrai que c'est vraiment limite.
Bah après, il a des problèmes de dos. Il va jouer l'équivalent de la finale de la Coupe du Monde une semaine plus tard. Alors, c'est vrai que la question se pose.
Mais à ce moment-là, tu participes pas au Master. Tu dis, je me préserve. Là, il joue. Les mecs, ils veulent arriver en finale. Ils peuvent pas y arriver. Et lui, finalement, je vais me réserver.
C'est pas le premier à le faire, à se qualifier.
Surtout qu'il aurait pu mettre son partenaire dans de bonnes conditions, Wawrinka.
Pour
la finale de la Coupe Davis.
Ouais, alors après, vous savez qu'il y a une polémique aussi entre Federer et Wawrinka, puisque Wawrinka, lors de la demi-finale, a fortement râlé contre membre du clan Federer qui faisait, selon lui, trop de bruit entre deux services. Et visiblement, c'était Madame Federer qui faisait du bruit. Apparemment, il y a une grosse explication entre les deux joueurs à la fin du match dans les vestiaires. Donc, à voir dans quel état ils seront.
Les Suisses sont chauds.
À voir aussi si Federer sera là à la finale de la Coupe Davis. Il sera peut-être pas là. À ce moment-là, c'est ce week-end.
Madame Federer qui a été une tennisman de très haut niveau professionnel avant d'arrêter pour se consacrer à sa vie de couple.
Ah bon?
Ouais.
Ah, ok. Je savais pas.
Mirka Vavrinec, elle est slovaque ou tchèque.
Mais on verra. Peut-être que vendredi, il y aura une surprise et Federer ne jouera pas le premier match de la Coupe Davis.
Peut-être, je m'excuserai lundi prochain à ce moment-là. Allez, on va parler maintenant football. Donc j'aimerais revenir sur ce classico, Patrick, Laurent, avec encore une défaite de l'OM. Alors on va peut-être écouter justement les pronostics de la semaine dernière, enfin d'il y a deux semaines. Allez, pour nos amis parieurs, on clôture cette émission sur le match de dimanche sur le Paris Saint-Germain-Marseille. Laurent
1-1.
1-1. Luc
Paris 2-1.
0-0.
0-0. Jules
Paris 2-0. Et moi, je suis toujours encore surprise. 1-0 pour l'OM. But de Gignac, qui n'est pas très content. Il s'est fait piquer ses frites à la cafette dans la semaine. Hein.
Et il va marquer. Allez,
il s'est fait piquer ses frites par Dadjadjadjé. Il n'a pas aimé du tout.
Il ne refera plus Dadjadjé.
Attends, je peux parier moi aussi. Je suis Jules 2-0 Paris. Et voilà.
Non, je précise, je suis Jules. Donc ça veut dire que c'était même pas ton propre pari.
On a le droit de copier dans cette émission. Donc j'ai encore sur les pronostics 100% de résultats justes.
C'est vrai que tu domines ce secteur de jeu.
Et par contre, t'es encore là, t'es pas encore parti aux Bahamas ou aux Maldives.
Non, figure-toi que quand je joue de l'argent, je perds. Donc je vais rester proposer les bons résultats à nos auditeurs. Ce classico, on n'en a pas parlé pour cause de jour férié la semaine dernière. Il y a rien à dire sur ce Paris-Marseille.
Bon, tu souris en prononçant cette phrase. Donc t'es même pas persuadé de ce que tu dis, mais tu sais très bien pourquoi. Bon, il y a eu moi j'ai trouvé un match vraiment qui a fait honneur à la Ligue 1, qui est souvent décrié en disant qu'on voit jamais rien, qu'il y a pas de joueurs, qu'il y a pas d'équipe. Bon, à mon avis, on a vu un match. Tu l'as regardé en Italie, en Espagne ou en Angleterre. Bon, mais ça, je pense, que ça a dû intéresser les spectateurs étrangers. Un gros début de match de Marseille qui aurait mérité de mener au score, tête de Gignac sur la barre et un tir d'Alessandrini qui passe au ras du poteau. Une maîtrise de balle marseillaise puisqu'il y a eu plus de possession pour Marseille. Et après, bon, c'est vrai que Paris a fait la différence, des individualités qui sont supérieures. Voilà, bon, ça s'est joué à pas grand chose. Mais quand tu vois jouer l'OM de Bielsa, ça fait plaisir.
Ce carton rouge qui fausse peut-être un peu la fin
du match. Oui, la fin de match, ouais. Un carton rouge injustifié.
Qui est un peu injustifié.
Parce qu'il a été retiré.
Ah bon? Il a été retiré? C'est nouveau, ça.
Donc,
l'arbitre a dit qu'il avait fait une erreur.
Le mal était fait.
Imbula ne sera pas suspendu au prochain match, alors qu'un carton rouge, c'est obligatoirement en principe suspendu.
Mais on peut quand même revenir sur le fait que l'arbitre a quand même reconnu sa faute, ce qui est assez rare finalement.
C'est très bien.
Stéphane, tu as vu ce match, le Classico, tu as réussi à le voir?
Oui, je l'ai vu. Je vous suis dans votre analyse. Très, très bon match avec beaucoup de rythme. Ce que je souligne à chaque fois pour revenir sur cette équipe de Marseille, c'est que c'est une équipe qui entame souvent très très bien leurs matchs, mais vraiment très très bien. À l'inverse, ils ont énormément de mal à les finir. Ils mettent tellement d'intensité dans la première heure de match, on va dire, que c'est difficile à tenir ça. Mais je crois que voilà, ils auraient certainement mérité mieux. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est de revenir sur ce que vous avez également dit sur l'arbitre. Je trouve que quand les arbitres reviennent après coup sur leurs erreurs et peuvent en discuter, c'est plutôt bon signe pour l'arbitrage, donc que tout le monde s'en inspire.
C'est vrai.
Ouais, alors moi, je suis d'accord avec vous, c'était un bon match, mais pour moi, la finalité du foot, c'est le résultat, quoi. C'est le score final, et bon, il y a eu une défaite de Marseille. J'aurais préféré voir un match moyen et qu'il n'y ait pas de défaite.
Oui. Bah, en tout cas, ça se tient,
ça se défend.
Ça a le don de relancer sérieusement le championnat, puisque Paris est revenu à un point de Marseille, et il doit y avoir deux points entre Marseille et
Lyon.
Marseille et Lyon, hein, c'est ça ?
Nous, on ne regarde pas la troisième place, hein, on regarde que la première.
Mais par contre, après, il faudra voir, ça va trois défaites d'affilée là, pour l'OM, en comptant la Coupe ?
Non, parce qu'il y a eu Lens.
Oui, il y a eu Lens au milieu.
De défaite. Non, en championnat, c'est seulement leur deuxième contre cette grande équipe de Montpellier.
Prochain match de Marseille, Patrick ?
Dimanche, 21h, Bordeaux, Marseille-Bordeaux. Donc les retrouvailles entre Imbula et Sagnol, ça promet des étincelles. Ils se détestent.
Stéphane ?
Non, je voulais simplement mettre une petite pièce sur Lyon, pas sur le prochain match, mais sur les deux saisons qui arrivent. On reparlera de cette équipe de Lyon.
Ouais, mais ça, c'est parce qu'il est né à Villefranche-sur-Saône. Donc là, les dés sont faussés.
Je suis un peu d'accord avec Stéphane. C'est Lyon qui a traversé une très très mauvaise période et qui est en train de ressortir pas mal de jeunes.
Superbe équipe.
Normalement, avoir son nouveau stade dans quelques mois. Et je pense qu'effectivement, ça peut être pas mal.
On en a parlé dans les précédentes émissions de cette attaque lyonnaise qui est quand même extraordinaire. Alors l'équipe de France, match nul contre l'Albanie, c'est nul, on n'en parle pas. On finit cette émission. Iker Casillas-San Iker est devenu samedi le joueur ayant remporté le plus de matchs de qualification de phase finale d'un euro. Donc c'est quand même à noter. 32 Super. Victoires. Et vous savez qui il vient de dépasser, monsieur Crespon ?
Non.
Non. Quelqu'un sait qui avait le record avant lui ?
En Espagne ?
Non, dans le monde.
Le record
en Europe, pardon.
Je le connais.
Oui, mais parce que toi, tu l'as noté sur ma feuille.
C'est Lilian Thuram.
C'est Lilian Thuram qui avait 31 victoires avant Iker Casillas en qualification. Non,
j'aurais dit en Allemagne, tu vois. Donc.
Ou en phase finale. Et non.
C'est fou, ça.
C'est un Français, Cocorico. C'est fou, hein.
C'est fou.
Allez, merci à tous d'être restés à nous suivre pour cette émission. Merci, Stéphane. On rappelle le match contre la Grande Motte.
Samedi, 16h au chapitre, en espérant qu'il y ait beaucoup de monde pour nous soutenir face aux leaders invaincus de ce championnat.
D'accord. Et la réserve au Blémard, ou contre le Blémard ?
Non, la 3.
La 3
qui joue au Blémard à 15h.
Au Blémard à 15h, quand ?
Dimanche.
Ah ben tiens, j'avais rien à faire.
Jour du Seigneur.
Je vais rester chez moi. Allez, merci à tous. On se retrouve lundi prochain avec peut-être des féminines du handball. On attend les nouvelles. Ciao, ciao.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Tadji Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro ?
Allez, Louis !